Le soir suivant, je me suis pointé pour la deuxième fois chez Silent Mike. L'écriteau sur la porte indiquait fermé et les lieux semblaient déserts. Mais quand j'ai frappé, mon pote électronicien m'a ouvert.
« Pile à l'heure, monsieur Intel. Pile à l'heure, » qu'il m'a dit. « Voyons voir ce que vous en pensez. D'après moi, je me suis surpassé. »
J'ai attendu près de la vitrine des radios à transistor le temps qu'ils disparaissent dans l'arrière-boutique et en reviennent avec une lampe dans chaque main. Les abat-jours étaient couverts de traces sales, comme s'ils avaient été tripotés par plusieurs générations de doigts crasseux. L'un des deux avait le pied ébréché, ce qui lui donnait l'air de la lampe penchée de Pise. « Ils étaient parfaits, » lui ai-je dit. Il a souri en posant deux enregistreurs à côté des lampes, ainsi qu'un sachet contenant plusieurs longueurs de fil si fins qu'il en était presque invisible.
« Voulez un petit cours ?»«
Je crois avoir pigé, » je lui ai dit. Et j'ai posé 5 billets de 20 sur le comptoir. Ça m'a plutôt touché qu'il en repousse un vers moi.
« 180 ! C'était le prix convenu. »«
Les 20 de plus, c'est pour que vous oubliez m'avoir jamais vu ici. » Après un court temps de réflexion, il a rattrapé du pouce le billet vert.
« C'est déjà fait. Alors, je vais prendre ça comme un pourboire. »
Tandis qu'il les rangeait dans un sac en papier brun, je lui ai posé une question, simple curiosité.
« Kennedy ? » m'a-t-il répondu. « J'ai pas voté pour lui. Mais tant qu'il n'est pas aux ordres du pape, je pense qu'il fera l'affaire. Le pays a besoin de quelqu'un de jeune. C'est une nouvelle ère, vous savez. »
« S'il venait à Dallas, pensez-vous que tout se passerait bien pour lui ?»«
Probable, mais on peut être sûr de rien. »
À sa place, je m'en tiendrai au nord de la ligne Mason-Dixon. » J'ai souri.
« Où dans les cieux, l'astre, lui ?»«
Ne commencez pas avec ça !»
répliqua Silent Mike. « Holy Mike !» Dans la salle des profs au premier étage, nous avions un casier à compartiment pour le courrier et les communications de l'administration. Le mardi matin, pendant mon heure de libre, j'ai trouvé une petite enveloppe cachetée dans le mien. « Cher George, si tu veux toujours qu'on aille dîner ce soir, il faudrait que tu passes me prendre autour de 17h. Je commence très tôt toute cette semaine et la suivante, préparation de la braderie de livres d'automne. Peut-être pourrons-nous rentrer chez moi pour le dessert. J'ai du fondant à t'offrir si tu en veux une tranche. Sadie. »
Qu'est-ce qui te fait rire, Amberson ? Me demanda Danny Laverty.
Il était en train de corriger des copies avec une fixité dans le regard qui trahissait la gueule de bois.
Allez, dis-moi, j'aurais bien besoin de me marrer un coup, moi aussi.
Non, tu pigerais pas. C'est une blague pour initier.
Mais Sadie et moi, on s'en est payé une tranche. Fondant est devenu notre nom de code. Et nous nous sommes beaucoup régalés cet automne-là. Nous étions discrets, mais forcément, il y avait des gens qui le savaient. Il dut y avoir quelques potins, mais il n'y eut pas de ragots. Dans les petites villes, les gens sont rarement mal intentionnés. Ils connaissaient la situation de Sadie, approximativement en tout cas, et comprenaient que nous ne pouvions nous engager publiquement, du moins pendant un certain temps. Elle n'est pas venue chez moi, ce qui aurait provoqué des commentaires déplacés, et je ne suis jamais resté chez elle au-delà de 22 heures, ce qui aurait également déclenché des commentaires inappropriés. J'aurais pu ranger ma Sunliner dans son garage pour passer la nuit chez elle, mais sa coccinelle Volkswagen, si petite fut-elle, l'emplissait quasiment d'un mur à l'autre. Je ne l'aurais pas fait de toute façon, car quelqu'un l'aurait su. Dans les petites villes, tout finit toujours par se savoir. J'allais la voir après les cours, ou je passais à l'heure du souper, comme elle disait. Parfois, nous allions chez Al manger un prank burger ou un filet de poisson-chat. D'autres fois, nous allions au Saddle. Par deux fois, un samedi soir, je l'ai emmené danser à la Grange. Nous sommes allés au cinéma, au Gem en ville, au Mesa de Round Hill ou au Starlight, le cinéparc de Kailin. Les jeunes appelaient ça « aller aux courses sous-marines ». Dans un bon restaurant comme le Saddle,
Sadie prenait un verre de vin avant de dîner et moi une bière pour l'accompagner. Mais nous prîmes grand soin de ne pas être vus ensemble dans l'un des bistrots du coin. Et surtout pas au Red Rooster, le seul troquet de Jody que nos lycéens évoquaient avec un mélange de respect craintif et d'envie. Nous n'étions qu'en 1961, et la ségrégation commençait enfin à céder du terrain. Les Noirs avaient remporté le droit de s'asseoir pour manger dans les Woolworth de Dallas, Fort Worth et Houston. Mais les profs de lycée n'allaient pas boire un verre au Red Rooster. Pas s'ils tenaient à conserver leur emploi. Jamais de la vie. Quand nous faisions l'amour dans sa chambre, Sadie gardait toujours à portée de main, de son côté du lit, un pantalon, un chandail et une paire de mocassins. Elle appelait ça sa tenue d'urgence. La seule fois où la sonnette a retenti alors que nous étions nus, pris en flagrant délicieux, comme elle disait avec humour, elle s'est habillée en 10 secondes, montre en main. Elle est revenue hilare, brandissant la tour de garde. «
C'était les témoins de Jéhovah. Je leur ai dit que j'étais déjà sauvé, alors ils s'en sont allés. »
Une fois, après l'amour, alors que nous dégustions du jambon grillé aux gombos dans sa cuisine, elle a dit comme ça que notre cour amoureuse lui rappelait le film Ariane, Love in the Afternoon, avec Audrey Hepburn et Gary Cooper. Parfois, je me demande comment ce serait de le faire la nuit. Elle avait dit ça d'un ton un peu mélancolique, comme le font les gens ordinaires. « Tu le sauras un jour, » lui ai-je dit. « En attendant surtout, tu lâches rien. » Elle a piqué un baiser au coin de ma bouche en souriant.
« Tu sors de ces expressions marrantes, George ?»«
Je sais, » je lui ai dit. « Je suis un original. » Elle a repoussé son assiette.
« Prête pour le dessert. Et toi ?»
Peu de temps après le passage des témoins de Jéhovah, ça devait être début novembre, car j'avais déjà bouclé la distribution de ma version de 12 hommes en colère. J'étais dehors en train de ratisser les feuilles sur ma pelouse quand quelqu'un m'a hélé.
« Salut, George! Comment va ?»
Je me suis retourné et Dickie Simmons, désormais veuf pour la deuxième fois, était là. Il était resté au Mexique plus longtemps qu'on ne l'aurait imaginé. Et juste au moment où tout le monde pensait qu'il s'y installerait, il était rentré. C'est la première fois que je le voyais depuis son retour. Il était très hâlé, mais avait beaucoup maigri. Ses vêtements flottaient sur lui, et ses cheveux, encore gris acier le jour de son mariage, étaient devenus presque entièrement blancs et s'étaient clairsemés sur le dessus du crâne. J'ai laissé tomber mon râteau pour me précipiter à sa rencontre. J'avais l'intention de lui serrer la main, mais spontanément je l'ai étreint. Il a sursauté. En 1961, les hommes, les vrais, ne s'étreignent pas. Puis il s'est mis à rire. Je l'ai tenu à bout de bras devant moi.
« Vous avez une mine superbe !»«
Oh, vous êtes gentil, George.
Mais c'est vrai que je suis mieux que je ne l'ai été. La mort de Mims, oh, je savais que ça allait arriver. Mais ça m'a quand même foutu un coup. L'intellect n'a jamais réussi à prendre le dessus sur le cœur, je crois. »
« Entrez donc prendre un café.
Ah, ça me ferait très plaisir. »
Nous avons parlé de son séjour au Mexique. Nous avons parlé du lycée. Nous avons parlé de l'équipe de football invaincue cet automne et du prochain match à jouer. Puis il posa sa tasse et me dit «
Helen Doherty m'a demandé de vous toucher deux mots de votre relation avec Sadie Clayton. »
Et moi qui nous avais cru très malins. Elle se fait appeler Dunhill dorénavant, c'est son nom de jeune fille.
Je connais sa situation. Je la connaissais lorsque nous l'avons engagée. C'est une fille bien, George. Et vous aussi êtes un garçon bien. D'après ce que m'a dit Ellie, vous gérez cette situation délicate avec une élégance rare.
À ces mots, je me suis un peu détendu.
Ellie a pensé que ni Sadie ni vous ne connaissiez les bungalows Candlewood, juste à la sortie de Kaelin. Elle ne savait pas trop comment vous en parler, alors elle m'a demandé si je voulais bien le faire à sa place. Les bungalows Candlewood ?
Oui.
Oh, j'y ai souvent emmené Mims le samedi soir.
Il tripotait sa tasse de café. Ses mains paraissaient trop grandes pour son corps.
C'est un établissement tenu par un couple de profs à la retraite. D'Arkansas ou d'Alabama. Un état en A, en tout cas. Un couple de retraités hommes, si vous voyez ce que je veux dire.
Je crois que je vous suis, oui.
Des types sympas, très discrets sur leurs propres relations et sur les relations de certains de leurs clients.
Il leva les yeux de son café. Il avait un peu rougi, mais il souriait aussi.
Oh, ça n'a rien à voir avec un hôtel de passe, si c'est à ça que vous pensez. Absolument rien. Les chambres sont agréables, les prix raisonnables, et le petit resto un peu plus loin sur la route sert une bonne cuisine du pays. Parfois, une femme a besoin d'un endroit comme ça. Un homme peut-être aussi, pour ne pas être obligé de bâcler, pour ne pas se sentir rabaissé.
Merci, lui ai-je dit.
Avec plaisir. Mimi et moi avons passé de nombreuses soirées agréables au Candlewood. Parfois, nous ne faisions rien d'autre que regarder la télévision en pyjama avant de nous mettre au lit. Mais quand on arrive à un certain âge, ça peut être aussi bon que n'importe quoi.
Il sourit avec nostalgie.
Ou presque. Nous nous endormions en écoutant le chant des grillons ou un coyote hurler au loin dans les étendues de sauge. Hurler à la lune. Ils font vraiment ça, vous savez. Ils hurlent à la lune.
Avec des gestes lents de vieil homme, il sortit un mouchoir de sa poche arrière et s'épongea les joues. J'ai avancé la main et Deke l'a prise dans la sienne.
Elle vous appréciait, même si elle n'a jamais bien su quoi penser de vous. Elle disait que vous lui rappeliez la façon dont on représentait les fantômes dans les vieux films des années 30. « Il est intelligent et brillant, mais il n'est pas complètement ici, » disait-elle.
« Je ne suis pas un fantôme. Je vous le promets. »
Deke me sourit.
« Non ? » ?»« Je me suis finalement décidé à vérifier vos références. Après vos débuts comme remplaçant, au vu de votre travail formidable sur la pièce de théâtre. Celles du lycée de Sarasota sont parfaites, mais si on remonte plus loin... »
Il secoua la tête sans cesser de sourire.
« Et votre titre provient d'une usine à diplôme en Oklahoma. »
J'ai tout sauté. En vain.
Aucun autre son ne pouvait sortir de ma gorge.
« Et qu'est-ce que cela me fait ?» me demandez-vous.
« Pas grand-chose. »
Il fut un temps dans cette partie du monde où si un homme arrivait en ville avec quelques livres dans ses sacoches, des lunettes sur le nez et une cravate autour du cou, il pouvait se faire embaucher comme maître d'école et le rester pendant 20 ans. Il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. « Vous êtes un sacré bon prof. Les élèves le savent. Je le sais. » Et Mims le savait aussi. Et c'est ça qui compte pour moi.
Hélène, c'est elle que j'ai trafiqué mes autres références. Hélène Doherty était encore proviseur par intérim, mais en l'absence d'autres candidats, elle deviendrait proviseur en titre après la réunion de janvier du conseil d'administration du lycée.
Non. Et il n'y a aucune raison qu'elle la prenne. Oh, pas par moi, en tout cas. J'ai le sentiment qu'elle n'a pas besoin de le savoir.
Il se leva.
Mais il y a une personne qui a besoin de savoir la vérité sur là d'où vous venez et ce que vous y avez fait. Et il s'agit d'une certaine jeune femme bibliothécaire. Si vous êtes sérieux à son sujet, j'entends.
L'êtes-vous ?
Oui, j'ai dit. Et Deke a hoché la tête comme si cela réglait tout. J'aurais tant aimé que ce soit le cas.
Grâce à Deke Simmons,
Sadie finit par découvrir ce que c'était que de faire l'amour après le coucher du soleil. Elle avait trouvé ça merveilleux. « Mais je suis encore plus impatiente de me réveiller à côté de toi demain matin. Tu entends souffler le vent ?» Je l'entendais. Il sifflait autour des avant-toits. « N'est-ce pas une musique propre à ravir les oreilles ?»« Si. » »« Je voudrais te dire quelque chose. J'espère que ça ne te dérangera pas. » »« Vas-y, dis toujours. » »« Je crois que je suis tombée amoureuse de toi. » Peut-être que ça n'est que sexuel. J'ai entendu dire que c'est une erreur qu'on fait souvent. Mais je ne crois pas. Sadie. Oui ? Elle essayait de sourire, mais elle avait l'air effrayée. Je t'aime aussi. Sans aucune hésitation ni erreur.
Oh, merci, mon Dieu,
dit-elle. Et elle vint se blottir contre moi.